Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Of the Kelly pour ouvrir cette deuxième heure de soundtrack ici. Donc, ce sont bien entendu les Blues Brothers. Ça fait 45 ans pile poil que sortait ce film qui est devenu mythique. Et évidemment, tout ça se retrouve aussi sur un album qui était sorti en même temps. Music from the soundtrack, c'est le cas de le dire. On va en parler avec Dominique Raguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Alors, nous sommes dimanche et ça tombe bien puisque nous sommes en mission pour Dieu.
Ah oui, I've got a mission for
forgot. The band. Oui, The Blues Brothers, ici on vient d'entendre l'ouverture de ce film avec ce morceau de Taj Mahal qui date de 68 et qui, paraît-il, était le titre préféré de John Belushi que ce She Called the Katie, avec cette ouverture où il vient le chercher dans une voiture de police en sortie de prison. Alors c'est vrai qu'il y a des films qui traversent le temps et pas seulement pour leur histoire ou leur mise en scène, mais aussi, je dirais, pour leur âme musicale. Alors on l'a dit, ce film est sorti il y a exactement 45 ans, quasiment jour pour jour. Et ce film de John Ennis, c'est un hommage, mais je dirais c'est plutôt aussi un manifeste en costume noir, lunettes fumées et chaussures bien cirées, en l'honneur du blues, du rhythm and blues, de la soul américaine, sorte de bras d'honneur dont John Belushi était accoutumé face caméra lors de ses passages en télévision sur la NBC. Et je dirais, un vrai bras d'honneur au disco et à cette nouvelle synthé pop qui émergeait en ce début des années 80, fin des années 70.
Revenons aux racines. Tiens, je précise que Taj Mahal, justement, on le retrouvera un petit peu plus tard puisque c'est aussi le sujet du micro-sillon de cette semaine.
Merci Walter. Et derrière ce film, une idée complètement dingue, un peu folle, puisqu'on y retrouve deux comédiens, John Belushi et Dan Aykroyd, qui étaient des héros du fameux Saturday Night Live. Ils ont fait quatre saisons.
Et le duo, avait déjà été imaginé pour cette émission.
Oui, il faisait déjà, parce que ce sont des vrais musiciens, par exemple. Tout le monde avait reconnu le talent de chanteur et surtout aussi d'imitateur de John Belushi lorsqu'il imite, entre autres, Joe Cocker. Il faisait des imitations dans le Saturday Night Live de Joe Cocker. Et c'est vrai qu'au départ, il crée ce groupe comme un gag, même si ce sont des très bons musiciens, avec Jack and Elwood. Et ils ont cette idée de donner vie à ce groupe fictif. Et donc, c'était un véritable pari, avec comme fil conducteur l'idée justement de la rédemption, c'est-à-dire que grâce à la musique on peut être sauvé, et sauvé surtout par Dieu, puisque l'idée du film, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, et dépêchez-vous de le revoir ou revoir,
c'était sauver un orphelinat.
Exactement, et comment on peut récolter des sous sans aller braquer une banque, puisque ils sont un peu quand même des brigands, c'est de faire de la musique et de faire des concerts.
Mais c'est des brigands gentils à la fois, parce que ils ont bon fond, et puis tout ce qu'ils entreprennent, en général, ça foire.
On va dire ça foire. C'est des pieds nickelés, en fait.
Oui, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Et c'est vrai que la bande-son a une véritable anthologie, puisqu'elle réunit des légendes vivantes. Et c'est pas seulement de simples apparitions, ou clins d'œil, ou caméos. Non, les musiciens ici, on a Steve Cropper, le colonel.
Qui vit toujours,
qui a fait partie, évidemment, de Booker T and MGs, qui a travaillé Wilson Pickett avec Sam and Dave, avec Otis Redding. On lui doit, entre autres, le fameux Sitting on the Dock of the Bay. Il y avait lui derrière ce morceau d'anthologie. Et puis à ses côtés, un autre de la Stax, Donald Dunn, le bassiste qui lui a créé, ou en tout cas co-créé, Midnight Hours avec Wilson Pickett. Il a créé aussi Hold On, I'm Coming.
Qui jouait avec la pipe au bec.
Voilà, il a l'air de rien. Et puis, il participe aussi à l'enregistrement de la version Respect par Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown ou encore Johnny Hooker, qu'on retrouve au casting et sur grand écran. Alors, on prend par exemple l'exemple de Aretha Franklin, dans cette scène inoubliable, dans ce dinner où elle est la patronne et elle reprend Think. Alors ici, pas de playback, il n'y a pas de doublure, la reine de la soul interprète en personne, il n'y a pas de doublage, de manière survoltée impériale, ce classique de la soul. Alors, il faut se remettre dans le contexte, on est en 79 et c'est à nouveau un manifeste féministe. On connaît évidemment Respect, et là elle revient avec les mêmes idées, puisqu'elle est quand même la patronne du bar, et que le type essaye de se montrer en disant non, c'est pas toi qui va me...
C'est Mac Murphy.
C'est pas toi qui va me faire me dire ce que je dois faire, et puis il dit barre-toi.
Réfléchis.
Think. Voilà. Voilà, moment d'anthologie. Et puis, grâce à ce film et grâce à cette nouvelle version de Think, ça a relancé la carrière d'un à Franklin, qui par la suite a exploré des sons un peu plus électro-synthé sur plusieurs albums, et puis surtout on l'a vu aussi aux côtés, entre autres, de Eurythmics ou encore de George Michael. Je vous propose de replonger dans la bande-son de ce film de Blues Brothers avec justement The Thing d'Aretha Franklin.
Et c'est bien volontiers.
I didn't need walking around every day playing games and making scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful when you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah. Get your mind gonna let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, think about me. What's trying to do to me?
Aretha Franklin, Think, chanté en cache-poussière rose, donc dans ce, enfin bah, c'était pas
think
ce bar,
it,
mais c'était
think
ce,
about it.
C'était ce, voilà exactement. Donc c'était ce dinner. Et alors il y a en 2013, j'avais eu l'occasion d'aller visiter les studios à Universal à Los Angeles. Et toutes les demi-heures, il y a un spectacle récurrent, Blues Brothers, donc où on retrouve les personnages de Jake et Elwood avec la voiture aussi, avec le porte-voix sur le toit, et notamment
une personne.
Voilà. Et notamment une personne qui imite Aretha Franklin et qui lui ressemble quand même vachement bien. Et c'est du bonheur parce que, en plus, ils font participer les spectateurs qui sont là et qui regardent, ils vous font danser avec et c'est un chouette souvenir.
Bien avant les chorégraphies qu'on a pu voir sur TikTok, par exemple.
Oui, par exemple, oui.
Parmi les autres stars, on a évidemment James Brown, qui incarne, souvenez-vous, ce pasteur dans cette église, et il entonne The Old Landmark avec cette scène où il mélange finalement gospel et funk, un moment de grâce jubilatoire, et ce qui a aussi, à ce moment-là, relancé la carrière de James Brown, qui était un petit peu en perte de vitesse, parce qu'il n'avait pas pris le tournant du disco, il était resté dans sa funk, et ça a relancé sa carrière, à tel point d'ailleurs qu'il va repartir un peu après en tournée, et lorsqu'il montait sur scène, dans la salle, il y avait parfois ce qu'on peut dire ses successeurs, puisqu'à plusieurs reprises il a invité sur scène Michael Jackson ou encore Prince, et puis en 85, évidemment, c'est la bande-son du film Rocky avec Living in America. Et puis parmi les autres grandes légendes au casting de ce film de Blues Brothers, il y a Ray Charles qui est derrière son comptoir de magasin, qui entonne
Shake It Up, qui même aveugle n'hésite pas à tirer du revolver.
Oui, alors ça c'est l'humour, je ne sais pas si ça passera encore.
Je ne sais pas non plus.
Voilà, parce qu'il tire quand même sur un gosse qui essaye de chipper, il dit je m'en excuse, mais bon.
Ouais, mais il tire à côté, donc ça va.
Oui, mais il est aveugle. Désolé, mais il peut... Voilà, c'est vrai qu'il a une très fine oreille, mais tout de même. Et puis, on l'a dit, parmi les autres invités de la bande-son, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, et puis les autres membres de la Stax, on a encore le batteur Willie Hall, le trompettiste Alan Rubin, le saxophone Tom Malone, tout ça qui forme véritablement un orchestre, une machine de guerre bien soudée, et ça explose à l'écran et dans nos oreilles. Le Blues Brothers, c'est un film, je dirais quand même, de transmission. Il remet en lumière des artistes qui avaient été oubliés, voire marginalisés à l'époque. Johnny Hooker retrouve quelque part de sa splendeur lorsqu'on le voit chanter dans les rues de Chicago son fameux boom boom boom, hey 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 hey,
et une dispute avec le bassiste pour savoir qui a écrit boom boom.
Voilà. Et à l'époque, on a dit que, comme c'était des légendes du blues et qui font partie de la culture afro-américaine, on a un peu attaqué Dana Croy en disant que c'était de l'appropriation culturelle, parce que Dana Croy, lui, il disait mais c'est pas l'appropriation culturelle, puisqu'en fait, moi j'ai voulu défendre simplement l'idée du blues, et il dit et il fait référence à Clapton. Il avait dit dans une interview, Clapton, il a grandi à Londres, il n'a pas grandi dans une cabane sur les bords du Mississippi, et pourtant il a donné ce petit plus au blues, il a donné ses lettres de noblesse au blues. D'ailleurs, il revient Clapton dans la suite des Blues Brothers.
Tout à fait, de 2000,
aux côtés de B.B. King. D'ailleurs, faut remettre dans le contexte racial de l'époque. Le film à l'époque de Blues Brothers avait été très très peu distribué, voire carrément boycotté dans de nombreuses salles de cinéma du sud des États-Unis. En fait, les distributeurs à l'époque, on est en 1980, trouvaient qu'il y avait trop de noir à l'écran. C'était il y a 45 ans, c'est pas si vieux. Ouais. Il y avait trop de noir à l'écran et que ça risquait d'attirer un peu trop d'afro-américains dans les salles. Ils n'avaient pas trop envie de faire de mélange racial dans les salles de projection. Voilà, mais cela dit, dans le film de John Ennis, on n'hésite pas à s'attaquer aux nazis américains. Il y a cette scène d'anthologie où je crois que c'est John Belushi qui dit « I hate American Nazi » et puis il fonce avec la voiture sur un attroupement d'adorateurs d'Hitler. Et puis bon, ils s'en prennent plein la figure après.
C'est un moment très amusant d'ailleurs dans le film.
Oui, mais finalement, ce film fait appel à la mémoire de l'Amérique et notamment de l'Amérique de l'entre-deux-guerres puisqu'on a au casting Cab Calloway.
Alors Cab Calloway, ça c'est une icône. Hein.
Alors, il sort en 1931. Il sort Minnie the Moocher et c'est une chanson qui utilise un argot qu'on pouvait entendre dans les milieux populaires de Harlem, puisque ça met en scène une gitane qui, pour survivre, c'est une histoire assez tragique, fait la danse du ventre. Et d'ailleurs, ce thème de Cab Calloway avait été repris dans les fameux dessins animés Betty Boop, en noir et blanc, cette fameuse Betty Boop qui reprend ce Cab Calloway. Alors là aussi, il a encore vécu 14 ans après la sortie du film, Cab Calloway. Il y a cette scène qui est quasi sur la fin du film et toute la scène a été enregistrée en live. Il n'y a pas eu de overdubbing, de post-production. Je propose de replonger dans un peu une page de l'histoire musicale de l'Amérique avec ce petit côté scat aussi de Cab Calloway avec Minnie the Moocher.
Vous écoutez Soundtrack sur Classic 21.
He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times.
Ce mini de Mutcher, en tout cas cette version, hein, toujours tirée de du soundtrack du film des Blues Brothers, Cab Calloway, donc qui refaisait surface et qui était le mentor finalement de Jake Elwood, qui leur a appris comment s'habiller, ouais. Qui leur a appris ce qu'était le blues. Il y a quelques années, j'avais fait un spectacle avec Jackie Coppen sur les origines du swing et notamment de Glenn Miller, et on parlait beaucoup d'ailleurs aussi de Cab Calloway puisque c'était l'époque, vous l'avez dit, hein, les années 30 et déjà à l'époque du crash boursier, il était déjà dans les boîtes de Harlem avec notamment Glenn Miller et tous les personnages de cette époque.
Et ce mélange de jazz et de blues. Bon, on l'a dit, c'est pour ça que The Blues Brothers est un film culte. Cela dit, c'est un film culte, mais le tournage a été assez épique, notamment à cause des cascades. C'était juste après cette série de films dont Cours après moi, shérif, avec Burt Reynolds. Il fallait mettre des bagnoles qui se cassent, qui se détruisent. C'était un peu la mode, hein, de cette fin des années 70.
Et les séries aussi, Shérif, voilà. Fais-moi peur, voilà, des choses comme ça.
Et Silvers aussi dans les années 80.
Oui, ça c'est un peu plus tard.
C'est un peu plus tard, ouais. Mais avec l'image de synthèse, c'est un peu fini ces cascades, ouais, de voitures. C'est passé de mode. Et d'ailleurs, à cause de ces cascades, le film a failli être complètement planté puisque le budget au départ était de 10 millions de dollars et était passé à 30 millions de dollars, ce qui est plus ou moins l'équivalent du budget d'un Star Wars, le Retour de Jedi. C'était plus ou moins le même budget pour l'époque si on veut comparer. Et bon, et puis il y avait surtout sur le tournage des problème avec John Belushi, qui était complètement camé, cocaïnomane. Il est mort d'ailleurs 2 ans plus tard, à 33 ans. Il paraît qu'il était ingérable sur le tournage. Il aurait, alors là c'est une légende, on ne sait pas, parce que ça a été démenti après par John Landis, mais il aurait frappé le réalisateur John Landis, parce que John Landis, pour essayer de canaliser un peu sa folie, avait jeté son paxon de cocaïne dans les toilettes, et qu'il avait été furieux, il avait carrément frappé John Landis. Lui, John Belushi, qui perdait, paraît-il, 10 paires de lunettes par jour, ces fameuses Ray-Ban Wayfarer, parce qu'il était tellement défoncé qu'il les perdait.
Il faisait pas gaffe, quoi.
Non, 10 paires de lunettes par jour. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand ils ont présenté le scénario de 300 pages au producteur, avoir gambergé pour faire vivre cet orchestre de Blues Brothers, il paraît que quand ils ont vu les grands, grands producteurs, ils n'ont pas voulu retirer leurs lunettes. On leur dit, vous pouvez quand même retirer un peu vos lunettes, qu'on voit votre visage. No. Et cela dit, on ne voit qu'une seule fois le regard des Blues Brothers.
Hein, c'est quand John il Belushi. Se retrouve avec Carrie Fisher. Donc ça, c'est la princesse Leia, qui en fait est son ex et qui cherche à tout moment à le buter, carrément, mais avec des moyens, pas des petits moyens, qu'elle fait carrément exploser un immeuble.
Oui, et puis il avait eu droit à une invasion de sauterelles. C'est pour ça qu'il n'a pas pu aller au mariage.
Voilà.
C'est vrai, on l'a dit, cette bande originale est devenue un disque incontournable et qui s'écoute, je dirais, encore aujourd'hui. Parce que à chaque note, on entend quelque part cette histoire de la musique américaine qui est, on va pas dire traditionnelle, mais en tout cas qui est restée vraiment et qui va encore perdurer. Il suffit d'entendre par exemple cette version par The Blues Brothers d'un morceau immortalisé par Salomon Burke. Hein. Everybody needs somebody to love.
Ouais, tout à fait. Et encore un petit mot aussi sur la pingouine, qui était donc la mère supérieure de l'orphelinat. L'actrice, j'ai oublié son nom, elle est décédée un an après.
Dans les incendies de Los Angeles.
Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis alors, on l'avait dit aussi, il y a eu donc un bis, mais qui était, on va dire, un copier-coller du premier, finalement, avec John Goodman qui a remplacé John Belushi, puisque celui-ci était mort. Et au début du film, là, c'est Elwood qui sort de prison, donc et c'est John Goodman qui vient le chercher. Il y avait aussi pas mal de vedettes là-dedans, et je pense à Eddie Floyd, à Wilson Pickett, à Johnny Lang, qui était encore tout jeune à ce moment-là. Et je pense que vous allez y rajouter quelque chose.
Oui, parce que l'histoire des Blues Brothers n'est pas terminée, puisque en octobre sortira un roman graphique qui s'appelle The Escape of Joel Jake, et qui est une suite du film original. Alors, ce roman graphique est signé par un Brésilien, Felipe Sobriero, et il a eu l'accord de la famille de Bellucci et de Aykroyd pour sortir ce roman graphique, qui est donc en quelque sorte la suite de cette histoire des Blues Brothers, qui n'a pas fini d'être transmise de génération en génération.
Et on referme la séquence donc avec ce Everybody Needs Somebody to Love. Merci beaucoup Dominique.
À tout bientôt.
Soundtrack.
If you need a little loving, call on me. Oh, yeah. If you want some kissing, call me, baby. All you got to do. If you want some
kissing. Call on me, baby. All you got to do now. You're my only night. Will you be alone? All you got to do is pick up your telephone and dial, baby.
6-3-4-5-7-8-9.
That's my number.
6-3-4-5-7-8-9.
Oh, I'll be right there just as soon as I can. And if I be a little bit late now, I hope that you'll understand. Oh,
adaptation du 6-3-4-5-7-8-9, donc ici pour les Blues Brothers, mais les Blues Brothers 2000, hein, donc la suite de ce film qui était sorti en 1998, avec pas mal d'invités. Bah déjà sur ce morceau, on retrouve Eddie Floyd, Wilson Pickett, Johnny Lang, hein, je l'ai mentionné déjà donc pendant la spéciale que l'on partageait avec Dominic Raguet. Et à noter que bah, dans ce film, on retrouvait aussi Eric Clapton, Bo Diddley, B.B. King, pour n'en citer que quelques-uns. Ou encore par exemple Jimmy Vaughan, et comme c'était en 1998, eh bien je me dis, en tout cas c'est la réflexion que je peux me faire, hein, c'est bien dommage malheureusement que Stevie Ray Vaughan n'était déjà plus là, parce qu'il aurait eu vraiment une place de choix dans ce genre de film, et je suis sûr qu'il y aurait fait certainement des étincelles.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.